Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio Vos Animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Bon samedi matin, merci infiniment pour votre fidélité. Deuxième émission de cette cinquième saison, figurez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des animaux handicapés. Comment vivre bien avec un animal handicapé? Car oui, le handicap peut toucher un jour ou l'autre votre animal de compagnie. Il peut être victime d'un accident ou d'une maladie. Si vous êtes dans ce cas de figure, si vous souhaitez témoigner, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On sera en compagnie d'un spécialiste qui nous expliquera comment gérer ces animaux pour que leur vie soit la plus jolie possible. Côté vie sauvage, c'est une histoire miraculeuse qu'on va vous raconter aujourd'hui, celle d'un éléphanto orphelin qui de son propre chef a trouvé le chemin d'un orphelinat. Ça se passe au Zimbabwe et ce sera l'occasion de parler de la situation des éléphants d'Afrique. Et puis enfin, nous accueillerons dans C'est votre histoire une éleveuse de chiens, de chats et même de perroquets. Elle vient de prendre part et de gagner un certain nombre de prix dans le championnat de France des chiens de race. Elle nous expliquera sa passion à la fois pour les chiens de race et pour les compétitions. Voilà, ça ce sera dans C'est votre histoire aux alentours de 10h45. Merci à vous d'écouter Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux. Et vous ?
Et ce matin, dans la première partie de cette émission, nous allons nous intéresser aux animaux qui sont handicapés. La situation n'est pas rare, elle peut concerner des chiens, des chats et bien d'autres espèces évidemment. Et l'objectif, c'est d'arriver à leur prodiguer les meilleurs soins, les meilleures conditions de vie pour qu'ils vivent le plus heureux possible et le mieux possible leur situation de handicap. Et puis aussi, en tant que maître de ces animaux, on a parfois besoin de conseils pour savoir comment s'y prendre. Et c'est justement le rôle de mon premier invité. Bonjour Artem Rogalev.
Bonjour.
Artem, vous êtes docteur vétérinaire, vous êtes spécialisé en physiothérapie des chiens et des chats et vous intervenez au centre Alform qui est situé au sein de l'école vétérinaire de Maison Alfort. C'est en quelque sorte un centre de remise en forme pour les animaux après divers accidents de la vie.
Exactement, oui, on s'occupe d'animaux justement handicapés après diverses choses pour les aider le mieux possible à récupérer ou vivre leur handicap.
Alors, vous n'hésitez pas, pardon, très chers auditeurs de Sud Radio, à composer le 0826 300 300 si vous souhaitez témoigner ou poser vos questions sur ce sujet. Artem, quelles sont les situations qui peuvent provoquer un handicap chez l'animal ?
Alors, il y a plein de situations, en fait, avec des degrés d'autonomie différents, avec des difficultés pour l'animal différentes. Donc, on pense, par exemple, à tout ce qui est problème de paralysie du train arrière, avec parfois associé à de l'incontinence aussi, hein, sur des troubles neurologiques. On pense aussi à l'arthrose, qui, à divers stades, peut amener un handicap plus ou moins important, des maladies dégénératives, la gériatrie, hein, tout ce qui est vraiment les effets de l'âge. Mmh. Mais ça peut être aussi des amputations, des séquelles post-opératoires, d'une chirurgie ou d'atteintes neurologiques. Et puis après, on pense évidemment à des animaux qui peuvent être sourds ou aveugles, ou ce genre de choses, qui sont aussi des formes de handicap.
Bien sûr. J'imagine que lorsque les propriétaires de ces animaux qui souffrent d'un handicap qui arrive forcément un peu brutalement dans leur vie, lorsqu'ils viennent vous rencontrer, ils doivent se sentir un peu démunis face à cela.
Oui, mais effectivement, en fait, les propriétaires qui viennent nous voir, souvent, en fait, c'est des choses, comme vous dites, qui arrivent brutalement, même si certaines, comme l'arthrose ou autres, mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Mais sinon, pour les choses type paralysie, c'est souvent quelque chose de brutal et on ne s'y attend pas. On a un animal qui va bien et quelques heures ou quelques jours plus tard, il est paralysé. Parfois, il y a une chirurgie, mais l'animal ne récupère pas tout de suite. Et autant, effectivement, la prise en charge chirurgicale, médicale est très, très bonne et a fait d'énormes progrès, autant, effectivement, l'accompagnement ensuite. Ben, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer et aider les propriétaires et l'animal à récupérer de cet handicap.
À entendre vos propos, Artem, on comprend bien qu'aujourd'hui, le temps où on euthanasiait quasiment systématiquement les animaux qui souffraient de handicap est loin derrière nous. Aujourd'hui, il y a des solutions pour vivre bien avec eux.
Oui, il y a des solutions, alors comme je disais, d'abord médicales et chirurgicales dans certains cas, mais après, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de solutions pour accompagner l'animal dans son handicap, puisqu'il n'y a pas de fatalité, on peut vraiment trouver des solutions pour quasiment, je dirais, n'importe quel handicap aujourd'hui, que ce soit de la paralysie ou simplement de l'arthrose ou une amputation, par exemple. Aujourd'hui, on peut faire des prothèses, par exemple.
En ce qui concerne justement un handicap locomoteur, un animal qui aura été amputé d'un membre ou qui est paralysé de l'arrière-train, on sait que c'est extrêmement fréquent. Quels sont les conseils que vous prodiguez à leurs propriétaires pour faire en sorte que tout se passe bien à la maison ?
La première chose, c'est déjà de bien poser le diagnostic, parce que derrière une paralysie, il peut y avoir différentes causes. Et donc derrière un pronostic de récupération pour l'animal qui est différent. Ensuite, nous, on va proposer soit des solutions de rééducation pour aider l'animal à récupérer, avec par exemple de la marche dans l'eau, avec des exercices d'étirement, d'équilibre, pour aider en fait l'animal à récupérer. Et si malheureusement il ne peut pas récupérer ou n'a pas récupéré, on a des solutions effectivement de type chariot, comme des fauteuils roulants en quelque sorte, des harnais de soutien arrière, des bottines, des couches pour des animaux qui seraient incontinents. Donc en fait, plein de solutions pour que l'animal, en fait, parce que l'animal, lui, le fait de se retrouver paralysé, très souvent, il va pas se poser autant de questions que nous et va finalement plutôt, dans sa tête, se dire « je suis paralysé de mon train arrière, mais je peux continuer quand même à me déplacer, à faire des choses, à manger » et finalement vit plutôt bien son handicap. Nous, le rôle, c'est simplement de l'aider à ce qu'il y ait le moins de conséquences possibles à tout ça.
Ça veut dire que finalement, dans sa tête, dans la tête de l'animal, tout se passe plutôt bien à partir du moment où il n'y a pas de douleur et il n'a pas finalement ce regard parfois un peu négatif que l'on peut avoir, nous, sur le handicap.
Non, il n'a pas le regard négatif et puis il n'a pas le regard non plus, il va se poser 36 000 questions en fait. Je suis paralysé, j'avance avec mes pattes arrière. Je donne souvent cet exemple à mes propriétaires qui ont ces animaux-là. C'est que moi, j'ai eu des chiens qui étaient paralysés, parfois des grands chiens, par exemple des labradors, et qui, simplement avec leurs pattes avant, quand on les laissait dans l'herbe ou autre, fallait leur courir après pour les rattraper parce que juste avec leurs pattes avant, ils arrivaient à prendre tellement de vitesse qu'ils étaient heureux finalement de vivre. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'ils ne se blessent pas. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des chariots, des bottines et différentes choses en fait, pour que ça se passe le mieux possible. Mais l'animal, lui, est tout à fait heureux de continuer simplement à vivre et de profiter de la vie.
Oui, finalement, la présence d'un petit chariot attaché à son arrière-train ne va pas être un problème pour lui. Pour le propriétaire de l'animal, en revanche, j'imagine que ça représente quand même un certain nombre de contraintes, notamment une contrainte financière. Ça coûte quoi, grosso modo ? Alors, vous allez me dire que ça dépend de la taille, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Mais il faut envisager quel type de fourchette ?
Alors, c'est entre 200, 250 et 400 euros pour les grands modèles. À peu près ce budget-là pour un chariot neuf. Après, on peut aussi avoir des solutions en location pour voir un essai avant d'investir effectivement sur ce type de matériel. Mais c'est souvent effectivement le propriétaire qui se dit que mon animal va mal le vivre, alors qu'en fait, il le vit plutôt très très bien. Et au contraire, on redonne de l'autonomie, notamment sur des grands chiens qu'on ne peut pas tout le temps porter, qu'on ne peut pas tout le temps soulager du train arrière avec un harnais ou une serviette ou autre parce que c'est lourd. Le chariot permet de leur redonner de l'autonomie, d'aller un peu partout, puisque c'est des chariots où on peut aller faire des balades derrière, bien sûr en ville, mais aussi en forêt. Ils peuvent courir en étant dans leur chariot. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant.
En fait, ça leur permet de retrouver une vie normale, finalement.
Oui, quasiment normale, effectivement, oui, puisqu'ils vont aller vers les autres congénères, leur ressentir, leur jouer, tout ça, oui. C'est le but, c'est vraiment que le handicap les gêne le moins possible. C'est vraiment notre but à chaque fois pour chaque patient.
Y a-t-il des aménagements à prévoir, Artem Rogalev, dans l'environnement de l'animal pour faire en sorte que justement, là je parle des handicaps moteurs ou peut-être aussi des handicaps visuels, pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour lui ?
Alors oui, au niveau des aménagements pour les handicaps locomoteurs, ça va être d'essayer d'avoir un couchage un petit peu épais, par exemple, pour éviter notamment tout ce qui est escarres. Souvent, c'est des animaux qui ont perdu de la masse musculaire, donc qui ont vraiment les reliefs osseux saillants. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'épais, quelque chose de plutôt chaud, notamment l'hiver. Alors, pas en cette période-là, mais plutôt l'hiver, quelque chose de chaud. Un revêtement au sol qui soit le moins glissant possible, parce que là aussi, il y a une faiblesse musculaire, voire une paralysie dans certains cas, mais souvent, en tout cas, une faiblesse. Donc, ils vont plus avoir tendance à perdre l'équilibre. Limiter les escaliers, donc mettre plutôt des rampes plutôt que des escaliers. Et après, pour tout ce qui est animaux, vous parliez d'animaux aveugles par exemple, c'est de ne pas trop changer la disposition des meubles dans une pièce, de ne pas trop modifier le parcours de promenade et de les accompagner au départ avec une laisse pour pas qu'ils se cognent dans les différents objets. Et petit à petit, l'animal va en fait retenir un peu ce parcours et va se servir de ses autres sens comme l'ouïe ou l'odorat pour se diriger et moins se cogner dans les différents obstacles.
Parfait. On va faire juste une petite pause, Artem, parce qu'on n'arrive pas à joindre nos deux auditeurs. Donc, reste bien en ligne avec nous et je vais essayer de mon côté de voir si j'arrive à les joindre. Hein.
D'accord.
Reste en ligne. Nous partons au standard puisque Coralie a souhaité témoigner sur cette thématique de la vie avec un animal handicapé. Bonjour Coralie.
Bonjour Natacha.
Merci beaucoup d'être avec nous Coralie. Je crois que vous avez un petit chien qui s'appelle Swan.
Tout à fait, ouais. J'ai une petite chienne bulldog français, c'est ça, donc qui est paralysée du train arrière depuis 4 ans.
D'accord. Et comment c'est arrivé?
C'est suite à des hernies discales.
D'accord. Et alors, racontez-nous votre quotidien avec elle.
Alors maintenant, c'est vrai que comme ça fait 4 ans, on a une petite routine bien en place. Elle est assez dépendante de moi, du coup. Donc, je l'aide pour monter, descendre du canapé. Et surtout,
ah oui, elle monte quand même sur le canapé. Voilà.
Elle me demande.
Elle vous appelle et elle vous dit, tiens, j'aimerais monter.
Exactement, oui. On a réappris à communiquer. Pour tout ça. Et puis au niveau des soins, je fais attention à ce qu'elle ne soit pas blessée au niveau des pattes arrière, comme elle se déplace un peu comme une otarie en se traînant.
Elle n'a pas de petit chariot ?
Elle a un petit chariot pour les balades, mais quand elle est à la maison, elle ne met pas le chariot.
D'accord.
C'est un petit peu encombrant dans
ouais,
la maison.
Oui, bien sûr, bien sûr. Comment avez-vous vécu ce changement radical, finalement, dans votre vie avec votre petite chienne Swan, Coralie ?
Alors, au début, c'est très bouleversant, c'est un choc, ça fait peur, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Il a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour s'habituer à tout ça, à ce nouveau quotidien. Et en fait, c'est vraiment Swan qui m'a portée, qui m'a aidée à la suivre, en fait, parce qu'elle a toujours gardé le moral, la pêche, elle était hyper volontaire. Dès le début, donc voilà, toutes les deux, on a avancé.
Donc vous vous êtes dit qu'il ne fallait pas lâcher.
Exactement, oui, exactement.
Donc vous avez l'impression que finalement, elle ne vit pas mal cette situation?
Absolument pas. Elle s'est complètement habituée à sa condition et moi aussi, et ça nous empêche absolument rien. Elle peut aller partout, on peut aller se balader de partout, à la plage, dans la ville, dans la forêt. Elle joue avec les autres chiens sans problème.
Ouais.
Donc,
et quand baladez, Coralie, avec Swan, quel regard portent les autres maîtres de chiens qui vous croisent? Est-ce qu'ils vous interrogent? Est-ce qu'ils vous demandent si c'est pas trop dur? Parce que j'imagine que ça peut arriver.
Bien sûr. À chaque balade, on m'arrête plusieurs fois. Et c'est chouette parce que du coup, ça me permet d'expliquer la situation de Swan et de partager sur le fait que malgré son handicap, eh ben, elle est là comme tous les autres chiens et elle se balade et elle est heureuse d'être dehors et de pouvoir profiter tout autant qu'un chien valide.
Comment ça se passe au niveau des problèmes d'incontinence? Parce que ça, c'est une conséquence souvent des animaux paralysés et c'est vrai que pour le propriétaire, c'est pas toujours facile à gérer.
Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est le plus gros point dans le quotidien qui est à gérer. Donc Swan n'est pas incontinente, mais elle a ce qu'on appelle une vessie neurologique, c'est-à-dire qu'elle est plus capable du tout de faire pipi toute seule.
D'accord. Donc vous devez l'aider.
Donc c'est ça, voilà. Je dois lui vidanger la vessie. En fait, je lui appuie sur l'abdomen pour expulser les urines. Mmh. Voilà.
Et quel message souhaiteriez-vous ou pourriez-vous faire passer, Coralie, aux gens qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio et qui peut-être découvrent aussi une situation telle que la vôtre? Parce qu'au début, on est forcément démunis quand ça nous tombe dessus. Donc, quel message avez-vous envie de leur faire passer?
Donc, complètement, oui, je comprends. C'est exactement ça. On se sent complètement démunis au départ. Et je pense qu'il faut vraiment écouter l'animal, en fait, voir comment il se sent et si on le sent prêt à vouloir relever tous ces défis et à continuer de vivre en étant heureux comme ça, eh bien, on peut foncer. Il y a de plus en plus de moyens, de petits outils, de petites choses pour leur faciliter le quotidien et le nôtre. Et comme ça, on peut...
Pour vous, dans les petites choses justement du quotidien, les petites choses pratiques, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé à trouver des solutions, des petites astuces?
Alors, le chariot, déjà, c'est vrai que ça a été super positif de pouvoir la voir heureuse dans son chariot. Elle peut courir et du coup, ça fait beaucoup de bien. Et dans les petites choses qui ont changé la vie, qui m'ont changé la vie aussi, c'est vraiment les... il existe comme des petits sacs, comme un petit sac de couchage pour la mettre dedans, pour qu'elle puisse se déplacer en se traînant et du coup sans se blesser.
Ah oui, bien sûr.
Et ça, c'est vraiment...
Et ça, elle l'accepte bien.
Oui.
Elle a compris que c'était bien pour elle.
Exactement. En plus, c'est une matière qui glisse. Du coup, ça lui permet d'avancer encore plus facilement. Donc,
Et bien,
elle s'adapte très bien.
Merci beaucoup, Coralie, pour ce très beau témoignage. Et puis, bien sûr, une caresse à Swan.
Avec plaisir. Merci à vous.
Merci. Très, très bon week-end, Coralie.
Artem
Regalef, quand on entend le témoignage de Coralie, on voit bien que finalement, passer la mauvaise nouvelle qu'on apprend sur le moment avec son vétérinaire, derrière, il y a tout un avenir qui est tout à fait positif.
Oui. Enfin, je trouve que le témoignage là est vraiment très intéressant et c'est génial d'avoir effectivement eu le courage d'aller jusque-là et de continuer à accompagner son chien parce qu'effectivement... On peut tout à fait vivre avec son chien handicapé et vivre de manière tout à fait heureuse.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les soins à prodiguer à des animaux qui ont comme ça des handicaps pour éviter justement les blessures du quotidien, pour éviter les pertes musculaires, des choses que les maîtres peuvent faire par eux-mêmes?
Alors, dans ce que les maîtres peuvent faire par eux-mêmes, ça va être tout ce qui est par exemple massage, des applications de chaud. Ça va être des petits étirements également pour garder un petit peu la souplesse au niveau des articulations. Les massages vont permettre également, mais du coup, de maintenir un petit peu la souplesse au niveau des muscles ou venir en fait soulager les muscles qui sont par exemple sur les pattes avant, puisque comme dans le cas de Swan ou d'autres animaux paralysés du train arrière, une grosse partie du poids est portée par l'avant. Donc même s'ils se développent musculairement, ces muscles peuvent devenir un petit peu plus sensibles. Donc soulager un petit peu ça. C'est des choses qui peuvent aider encore une fois l'animal.
Et en ce qui concerne les différences qui existent peut-être au quotidien dans la gestion de l'animal handicapé lorsqu'on a affaire à un chien ou un chat, y en a-t-il?
Entre la différence entre le chien et le chat, oui. Alors, du coup, oui, bien sûr, mais ça va dépendre du caractère en fait, de l'animal, notamment pour le chat, avec des animaux qui vont plus ou moins se laisser faire, donc il va falloir trouver en fait, des astuces pour arriver en quelque sorte à nos fins tout en faisant en sorte que ce soit le moins désagréable possible pour l'animal. Mais on peut tout à fait avoir des chats qui sont dans des chariots aussi, ça existe. On a des chats qui vont dans des tapis roulants immergés chez nous aussi, donc à qui on peut faire de la rééducation de la même façon qu'un chien.
Ça c'est étonnant,
les chats nageurs. De leur caractère. Oui, c'est ça.
Effectivement, ça doit être assez étonnant. Les centres de rééducation comme le vôtre, il en existe à peu près combien en France, Artem Regalef?
Ça se développe de plus en plus et bien heureusement, parce que nos animaux en ont besoin. Donc aujourd'hui, il y en aurait une cinquantaine à peu près en France avec des tailles différentes. Mais en tout cas, des vétérinaires spécialisés dans la rééducation qui sont en mesure d'apporter ce type de soins.
Donc on peut trouver, a priori, dans sa région, un centre qui est capable de fournir ce type de choses.
Oui, plus ou moins. Alors il y a des régions qui sont plus ou moins riches ou pauvres en centres de rééducation, mais on peut, il en manque encore. Il y a encore des endroits où il y en a peu, mais c'est quand même une discipline qui se développe et qui est amené à se développer de par effectivement le développement de la médecine aujourd'hui.
Et enfin, comment améliorer au mieux la qualité de vie de nos animaux qui souffrent de handicap? Si vous avez trois conseils que nos auditeurs de Sud Radio peuvent retenir, ce serait quoi?
Prendre conseil auprès de professionnels, je vous dis, sur l'état de santé de l'animal. Et puis après, derrière, vraiment, comme le disait le témoignage, voir ce que l'animal... ce que l'animal nous dit en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont envie d'avancer, qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire les choses. Et donc là, effectivement, on peut les accompagner. Quand on voit que l'animal commence à avoir du mal à manger, commence à plus être intéressé par grand-chose, peut-être qu'effectivement, il est temps à ce moment-là de se poser les bonnes questions. Donc vraiment, faire confiance un petit peu à l'animal, mais après avoir effectivement bien posé le diagnostic avec un professionnel de santé.
Voilà, il faut être à l'écoute de nos animaux, évidemment, et surtout dans ces situations de handicap, peut-être encore plus. Eux n'ont pas, n'ont aucun regard négatif sur le handicap, et c'est fort heureux. Donc, ça permet d'avoir une vie très plaisante à leur côté et de leur offrir surtout une vie très plaisante, même après un accident ou une maladie. Merci infiniment, Artem Rogalev, pour vos explications et pour vos très bons conseils. Merci Artem. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour vos animaux.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio Vos Animaux, Natacha Harry.
Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. Dans la séquence C'est votre histoire, aux environs de 10h45, on découvrira justement l'histoire d'une passionnée d'animaux, passionnée de chiens, de chats. Elle est éleveuse, elle fait des compétitions et elle nous expliquera pourquoi elle se donne autant de mal pour élever les plus beaux et les plus sympathiques animaux possibles. Mais tout de suite, c'est notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage.
Merci à mon invité de cette séquence, David Germain Robin. Bonjour David.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Fonds international pour la protection des animaux et de la nature, AIFO. David, vous allez nous raconter une histoire comme on les aime dans cette émission, une très belle histoire, celle d'un petit éléphant, un éléphanto qui a été surnommé Moses, ou Moïse si on fait la version française. Cet éléphanto a parcouru un certain nombre de kilomètres pour se retrouver dans un orphelinat pour éléphants parce qu'il était seul dans la nature. C'est assez incroyable tout de même. Ça s'est passé au Zimbabwe, c'est bien ça ?
Tout à fait. Donc Moses est un jeune éléphanto d'environ 9 mois qui a rejoint seul mi-juillet le Boma. Le Boma, c'est un abri dans le sanctuaire pour éléphants situé dans la réserve de Panda Maswi au nord du parc national de Wangé, au Zimbabwe. Mm-hmm. C'est un événement un peu hors du commun qui s'est produit dans le cadre d'un projet Wildlife, Sauvage et la vie, CAIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, soutient. Alors, comment ça s'est passé ? Ah, pardon, excusez-moi.
Non, mais je vous en prie. C'était justement la question que j'allais vous poser. Comment ça s'est passé ? Comment un éléphanto seul, a priori orphelin, maintenant on le sait, a débarqué comme ça de son propre chef dans cette structure destinée à accueillir justement des éléphantaux orphelins.
Alors, c'est une bonne question. Mi-juillet, le groupe d'éléphants qui réside dans le site de remise en liberté de Wildlife, FAO, à Panda Maswi, s'est regroupé, se montrant très agité, perturbé par quelque chose dans la forêt, juste à l'extérieur du Boma, l'abri où il s'est trouvé. Les équipes du sanctuaire croyaient qu'il s'agissait peut-être d'éléphants sauvages parce qu'en fait le sanctuaire est proche du parc national de Wangé ou de Lyon qui se trouvait à proximité. Mais soudain, en fait, après avoir attendu un petit moment, ce petit éléphanto qui est apparu, il était seul. C'est inhabituel car normalement les éléphants restent toujours très proches de leur mère. Les équipes ont observé, attendu avant de libérer les éléphants qui étaient dans leurs abris, qui sont allés accueillir le jeune éléphant pour le ramener en sécurité dans le Boma. Dans un sens, c'est une belle histoire parce que ce sont des éléphants sauvés qui deviennent les sauveteurs d'un petit éléphant.
Oui, c'est ça qui est absolument incroyable. J'imagine que les soigneurs qui étaient sur place s'attendaient peut-être à voir la maman de cet éléphanto arriver derrière parce que ça n'arrive jamais qu'un éléphant se sauve de son troupeau, perde la trace de sa maman. J'imagine que c'est rarissime. Il faut qu'il se soit passé un événement dramatique pour que ça se passe ainsi.
Probablement, nous ne saurons jamais, car les éco-gardes de la forêt ont remonté la piste pendant plusieurs kilomètres, 4 kilomètres, ça les a amenés au parc national du Zambèze, qui se trouve au nord de la réserve de Panda Maswi, et là, ils ont perdu leur trace, en fait. Alors, donc, nous ne savons pas ce qui est arrivé à son troupeau, mais c'est assez miraculeux qu'il ait échappé aux prédateurs qu'il y a dans la réserve, parce qu'un petit éléphanto qui a 9 mois, pèse 100 kilos, peut facilement être la proie des lions ou même des hyènes, des carons, des léopards qui abondent autour de Wangé.
Bien sûr. Il est arrivé dans quel état à l'orphelinat ?
Il était en assez bon état, un peu déshydraté. Il a été pris en charge, mais très rapidement, au bout de 24 heures, il se trouvait dans un bon état. Et j'ai reçu une vidéo ce matin, il est en bonne santé, mange, boit, tout va bien pour lui pour l'instant.
Comment ça se passe dans un orphelinat tel que celui-ci? Les éléphantaux sont nourris avec du lait fabriqué à partir de lait en poudre, ou est-ce que d'autres mamans éléphants peuvent les nourrir? Comment vous fonctionnez?
Alors en fait, non, ils sont nourris à partir du lait, souvent du lait de vache en fait. Mmh. Alors, en ce qui, en fait, dans le projet Wild Life, il y a deux composantes. En fait, il y a l'orphelinat qui ne se trouve pas dans la réserve de Panda Suisse. Il se trouve à Harare, où il y a un orphelinat qui s'occupe des petits éléphants qui ont jusqu'à 3-5 ans. Et ensuite, ils sont transférés dans la réserve de Panda Massui, une zone de 34 000 hectares qui est adjacente au parc national de Wangé, où ils ont l'occasion justement de se promener, de se balader dans la forêt accompagnés par les éco-gardes. Et ils ont à cette occasion des contacts avec d'autres éléphants sauvages. C'est la partie réhabilitation.
Oui.
Et quand ils seront juvéniles, comme le font les éléphants, ils quitteront leur troupeau pour aller vers un autre troupeau. Donc les mâles iront avec souvent des troupeaux de jeunes mâles et les femelles iront sous la garde d'une matriarche. Donc voilà, en fait comment ça va se passer.
Parce qu'effectivement, les éléphants qui sont recueillis dans cette structure, comme dans tous les orphelinats en Afrique, sont destinés à un moment donné à retrouver la vie sauvage. Donc il y a tout un programme d'accompagnement pour leur permettre de réapprendre les codes, j'imagine, d'une vie en troupeau.
Bah, tout à fait. Donc c'est pour ça, c'est lors des promenades qu'ils vont faire, mais la durée, ça va durer entre 5 et 10 ans hein, pour qu'ils puissent rejoindre un troupeau. Parce que normalement, ils peuvent être accueillis quand ils sont tout petits, éléphants entre 1 et 3 ans.
Oui.
Mais c'est à l'adolescence, entre 10 ans pour les garçons, 15 ans pour les filles, que les éléphantos s'en vont vers le troupeau initial.
Comment les éléphants qui étaient présents ont accueilli ce petit? Est-ce qu'ils ont eu des gestes bienveillants envers lui? Parce qu'on sait que les éléphants sont justement capables de cette sensibilité-là. Ce sont des animaux assez fascinants dans leur vie sociale. Hein.
Bah, tout à fait. Ils sont allés à l'accueillir, ils l'ont caressé, ils ont eu des interactions avec lui, tout à fait.
À l'état sauvage, ça vit combien de temps un éléphant, David Germain Robin?
Cela vit à peu près 50-60 ans. Ça peut aller jusqu'à 70-75 ans, mais l'espérance de vie normale est de 60 ans.
Alors, cette très belle histoire de Moses ne doit pas nous faire oublier la situation des éléphants en Afrique. Et votre association, le Fonds international pour la protection des animaux, est très impliquée justement dans la préservation de cette espèce. L'éléphant d'Afrique est aujourd'hui clairement menacé, n'est-ce pas?
Tout à fait. La situation n'est pas brillante. Mais elle est contrastée en fonction des espèces et des pays. Parce que maintenant, il y a deux espèces d'éléphants en Afrique. Jusqu'il y a une dizaine d'années, on considérait qu'il n'y avait qu'une espèce, l'éléphant d'Afrique. Maintenant, il y a l'éléphant d'Afrique des savanes et l'éléphant des forêts d'Afrique. Deux espèces. Donc, c'est en fonction de l'espèce, la situation est différente, mais elle se dégrade rapidement. On considérait qu'il y avait 5 millions d'éléphants au début du siècle dernier. Maintenant, il n'y en a plus que 400 000, dont 80 à 90% sont des éléphants des savanes d'Afrique et que 10 à 20% des éléphants des forêts.
J'imagine que la principale cause de disparition des éléphants reste le braconnage.
Alors, il y a deux causes principales, la perte d'habitat, la fragmentation des habitats et le braconnage. Parce que c'est vrai qu'ils avaient des espaces immenses avant pour gambader, se promener, aller du nord au sud de l'Afrique. Actuellement, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont parqués dans des réserves naturelles et il y a des projets sur lesquels on travaille justement pour pouvoir faire que les éléphants puissent aller d'une réserve à l'autre. Il y a eu des gros progrès qui ont été faits notamment en Afrique australe avec la création de zones transfrontalières de conservation et le TFCA, le Transfrontier Conservation Area en anglais du Zambézi, du Kavango Zambézi qui rejoint la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie permet aux éléphants de se déplacer avec une certaine liberté. C'est là où 300 000 des 400 000 éléphants d'Afrique restants se trouvent actuellement.
Oui, donc ça veut dire que quand on fait des efforts de préservation, ça peut aussi fonctionner. Vous-même, avec votre association, vous êtes très impliqué dans ces efforts de préservation, et notamment avec des éco-gardes très féminines, je crois.
Tout à fait. Alors là, ça, c'est un projet que l'on mène au Kenya.
Oui.
À l'ouest de la réserve d'Amboseli, à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, où nous avons formé 8 éco-gardes il y a 2 ans,
oui.
Une unité d'éco-gardes entièrement féminine, et nous venons de recruter 8 autres qui travaillent à la protection de la faune sauvage, des éléphants, mais de toutes les espèces qu'il peut y avoir. Ces éco-gardes, nous les avons recrutées dans les communautés locales, les communautés Maasai, parce qu'elles ont une connaissance assez importante, bien sûr, de la faune et du paysage, et sont en mesure de mieux préserver les animaux.
Mmh. Quel est l'impact de la pandémie qui sévit depuis maintenant quasiment 2 ans ? J'imagine que ce n'est pas neutre sur la vie sauvage.
C'est difficile à voir, c'est-à-dire qu'il y a des avantages dans un sens, parce qu'ils sont moins dérangés par le tourisme, parce que des fois le tourisme, même si ça rapporte, ça peut aussi déranger les animaux,
oui.
mais dans un autre niveau, le problème est qu'il n'y a plus non plus de sources de financement pour les parcs nationaux et aussi pour les communautés qui vivent du tourisme, ce qui peut parfois, il faudra voir ça à plus long terme, provoquer
un déplacement, j'imagine, peut-être de la vie économique vers des activités illicites telles que le braconnage.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut vous aider si on a envie de soutenir les causes que vous défendez, et notamment celle des éléphants ? J'imagine que oui. De quelle manière peut-on vous aider ?
Vous pouvez vous rendre sur le site d'IFAW, ifaw.org, afin de soutenir nos actions.
Pour revenir sur l'histoire de Moses, est-ce que vous pouvez nous dire quel va être le devenir de ce petit éléphant dans les mois et voire les années à venir ?
Il est déjà intégré d'ailleurs dans la troupe des éléphants, donc il va grandir et comme les autres, quand il deviendra adolescent, il aura l'occasion de rejoindre, si tout se passe bien, un troupeau d'éléphants qui.
Un troupeau qui.
Autour,
qui, a, voilà, qui est à l'état sauvage.
Autour. Tout à fait.
Ça se passe bien, ces formes de réintroduction, quand on ramène un animal qui a vécu des années en captivité, même si c'est une captivité toute relative, et que d'un seul coup, il doit s'intégrer dans un groupe déjà constitué.
Alors, captivité, c'est un mot fort, parce qu'en fait...
Oui, c'est pour ça que j'ai dit toute relative.
Voilà, c'est en semi-liberté. Mm-hmm. Donc, ils sont en liberté, mais surveillés, ils ont un abri où ils peuvent revenir pour être protégés, mais justement, c'est une zone de 34 000 hectares quand même, sur lesquels ils peuvent se promener en toute liberté, à part qu'ils sont suivis par des éco-gardes, et ce qui leur permet justement d'interagir avec des éléphants, de s'ensauvager, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, pour rejoindre ensuite un troupeau.
Eh bien, écoutez, merci infiniment au David Germain-Robin. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds international pour la protection des animaux. Merci pour cette magnifique histoire et on compte bien sûr sur vous pour nous donner peut-être des nouvelles d'ici quelques mois de ce petit éléphanteau, Moses, qui a eu la chance de trouver par lui-même le chemin d'un orphelinat pour éléphants. Ça se passe au Zimbabwe. Allez, à nouveau une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour C'est votre histoire en compagnie d'une passionnée d'animaux. Elle va nous raconter pourquoi elle élève des lévriers, des chats, pourquoi elle a aussi beaucoup d'autres animaux chez elle. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire.
Et dans notre séquence C'est votre histoire aujourd'hui, nous allons donner la parole à une personne absolument passionnée par les animaux, les chiens, les chats, les perroquets également. Bonjour Sophie Debricon, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.
Bonjour.
Sophie, vous êtes éleveuse de chiens assez atypiques. Vous allez nous les présenter tout à l'heure. Éleveuse de chats également. Là encore, vous avez choisi des races assez peu répandues, comme le sphinx, par exemple. Comment devient-on éleveuse, Sophie ?
Alors, moi, je crois que c'est une passion depuis toute petite, en fait, du monde animal. Voir évoluer, penser au mariage, voir ce que ça va donner, vivre les naissances, c'est quelque chose qui me passionne toujours et qui est toujours passionnant. Voilà. C'est pour ça que je suis tombée là-dedans, je crois. Je suis une véritable amoureuse, en fait, du monde animal.
Qu'est-ce que vous recherchez, finalement, quand vous élevez, quand vous faites naître un chiot, enfin, des chiots, des chatons? Vous cherchez quoi? La beauté? Vous cherchez... qu'est-ce qui vous motive le plus? Parce que ce métier d'éleveur est tellement multifacette. Hein.
Qu'est-ce qui me motive? Oui, c'est la curiosité de voir ce que vont donner les mariages que j'ai pensé, imaginé, la pérennisation aussi d'une lignée que j'ai pu éventuellement travailler en sélectionnant certaines choses qui me plaisent, comme le comportement ou le standard de l'animal, en fait.
Et vous faites aussi des compétitions. Là, vous venez de terminer le championnat de France des chiens de race.
Mmh.
Vous avez été récompensé.
Oui.
Bon, racontez-nous. Alors, ne faites pas votre timide.
Alors là, j'y suis allée. Bon, j'allais chercher des choses.
C'était à Dijon, je le précise pour nos auditeurs.
C'est ça, c'était à Dijon. Donc, je finissais en fait un championnat de France de beauté pour une de mes femelles Azawak. Hein. Donc, l'Azawak, c'est un lévrier africain qui est très rare, enfin, relativement rare et très peu connu.
Mm-hmm.
Un grand lévrier à poil court. Et puis, c'est pareil, j'allais chercher aussi quelque chose pour terminer aussi le championnat de beauté d'un de mes mâles Barzoï également.
Donc, vous êtes spécialisé en lévrier chez les chiens.
Voilà, j'aime beaucoup les lévriers, sont des chiens-chats que j'aime beaucoup, qui sont agréables à vivre, sensibles, et puis l'avantage aussi, c'est que ce sont des races que je ne rencontre pas forcément tous les jours en clientèle, puisque je suis vétérinaire également.
Oui.
Et c'est aussi peut-être...
C'est pratique d'être éleveuse et vétérinaire, ça limite les frais.
Je ne sais pas si c'est pratique. Alors, ça ne limite pas les frais. Erreur.
Hein. Ah bon?
Si on limite les frais, c'est considéré comme de l'abus de biens social.
Ah,
donc il faut
c'est vrai. Merci de cette précision.
Eh ouais, il faut que l'éleveur que je suis, mais en fait, soit facturé par le vétérinaire que je suis sur les actes que je fais.
D'accord.
C'est pas du gratuit. Alors effectivement, il y a des prix préférentiels, c'est sûr, mais il y a une facturation des actes vétérinaires. Donc c'est vrai que le choix de mes races, que ce soit en chien et en chat, je pense également que c'est lié en fait à des races que je ne rencontre pas au quotidien en fait.
Oui, alors précisons. Donc vous élevez des Barzoï.
Voilà, Barzoï, Azawak.
Azawak et chez d'autres chiens.
Alors j'ai élevé, maintenant j'ai arrêté, j'ai élevé aussi du bulldog anglais. Alors
d'accord.
Là c'est un de mes fils qui m'a fait tomber là-dedans. Et la difficulté aussi de l'élevage du bulldog anglais que j'avais envie de connaître et de tester. Donc ça j'en ai élevé pendant presque une quinzaine d'années. Là il me reste des vieilles femelles qui sont...
Des chiens tellement attachants.
Ouais, trop rigolos.
Mais compliqués.
Voilà.
L'élevage
est compliqué, c'est sûr, hein. Ça c'est certain. Après, le lévrier, c'est vraiment un groupe de chiens de cœur. Donc le Barzoï, qui est un grand lévrier russe à poil long, qui était un chasseur de loups et d'ours à l'origine. Et puis l'Azawak, qui est un grand lévrier à poil court du Mali, chien de, on va dire, de compagnie des Touaregs, hein, donc des nomades du désert. Qui leur servent à chasser, garder le campement et qui gardent le troupeau également. D'ailleurs, je me suis rendue au Niger pour aller les voir là-bas sur place. C'est fabuleux. Voilà.
Comment on développe un élevage de Barzoï ou d'Azawak? D'où viennent vos reproducteurs? Alors peut-être qu'avec le Barzoï, c'est plus facile parce que c'est quand même une race qui est plus connue, plus présente sur notre territoire. Mais l'Azawak, comment on démarre à la base?
Ben, à la base, alors ça fait plus de 20 ans moi que j'ai des Azawak maintenant, donc il y en avait très peu au départ, donc forcément c'est venu d'un autre éleveur au départ. Et puis moi j'ai commencé en faisant des mariages, j'ai acheté une première femelle en fait hein, sur un vieil éleveur, et après j'ai fait des mariages avec des mâles d'importation, donc qui venaient directement du Sahel, pour essayer d'ouvrir le potentiel génétique sur une race qui était quand même très très fermée. Voilà, et puis j'ai démarré là-dessus.
D'accord.
Voilà, le Barzoï, après, bon, moi j'ai différentes lignées qui viennent de toute l'Europe, on va dire. Hein. Je ne me suis pas cantonnée à des chiens français. Donc voilà, c'est pareil, j'ai une ouverture sur différentes lignées de différents pays européens, en fait.
Ça veut dire qu'en tant qu'éleveuse, vous êtes en permanence à l'affût de ce qui se passe dans le monde entier, sur les races qui vous intéressent. Vous regardez les chiens qui gagnent des compétitions, des concours hein, de chiens. C'est comme ça que ça se passe ?
Personnellement, oui. Je m'informe. En tout cas, je cherche les informations un petit peu partout pour voir un peu comment évolue le monde de l'élevage, la race, vers quoi tendent les gens, voir effectivement ce que les autres personnes peuvent produire comme chiens, pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est important hein, de rester connecté avec ce qui se passe ailleurs au monde entier, quoi. Personnellement, je suis très peu cantonnée au monde français. Je vais faire des expositions à l'étranger, de grandes expositions de lévriers à l'étranger.
Ce sont des animaux difficiles à éduquer ?
Pas difficile, mais ce sont pas des machines à apprendre. Voilà. On a des races de chiens qui sont sélectionnées depuis des années pour apprendre tout ce qui est chien de berger, par exemple, tout ce qui est chien de travail. Les boxers, c'est des chiens d'Obermann, sont des chiens qui apprennent très vite, qui sont faits pour ça, qui ont été sélectionnés pour ça. Le lévrier garde une certaine distance quand même.
Donc leur atout majeur, c'est quoi alors ?
Leur atout majeur... Peut-être leur douceur, leur sensibilité, qui peut être un inconvénient, puisqu'au niveau de l'éducation, il faut y aller gentiment, parce qu'on peut vite faire peur aux chiens et perdre cette confiance dont on a besoin pour instaurer quelque chose de sérieux, de solide, pour pouvoir lui demander ce qu'on attend de lui, en fait.
Il faut prendre le temps et apprendre à le comprendre.
Voilà, c'est plus un deal avec le lévrier en règle générale, je dirais.
Ah, j'aime bien cette expression, effectivement.
Voilà. C'est un deal. C'est OK, le chien va bien vouloir faire quelque chose pour nous faire plaisir. Mais voilà, c'est pour nous faire plaisir. Donc, il faut que nous, en contrepartie, on puisse aussi lui offrir des choses qui lui font plaisir.
Donc, chez les chiens, vous élevez des races de chiens très peu répandues. Et alors, chez les chats, vous faites fort aussi.
Oui, c'est pareil. Alors, je suis tombée dedans, pareil, il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, le sphinx, hein, qui est donc un chat nu, complètement nu. Alors, en fait, il a quand même un petit duvet sur la peau qui est très, très court. Donc, on a cette sensation, effectivement, de chat nu. Hein. Au toucher, ça ressemble, en fait, à une peau de chamois chaude. Un peu une peau humaine, mais un peu plus chaude que nous.
C'est vrai que c'est assez surprenant, quand même.
C'est surprenant. Ils ont un faciès un peu particulier, donc...
Certains les trouvent très moches, d'autres très beaux.
C'est tout à fait ça.
Ils ne laissent pas indifférents.
Voilà, c'est soit on adore, soit on a horreur de ça. Par contre, dès qu'on est... même les gens qui n'aiment pas au premier abord, en fait, quand ils sont en contact avec des sphinx, ils ont un caractère qui est tellement fantastique.
À quel point de vue ?
Ce sont des chats hyper sociables, vraiment hyper sociables, très curieux.
Oui.
Et qui n'ont peur de rien, qui viennent vraiment, qui recherchent le contact de l'être humain. Quand par exemple des gens viennent chercher des chatons, je leur mets les chatons dans les bras, c'est comme s'ils les avaient eus depuis toujours.
Ah oui.
Il n'y a jamais de peur, de crainte. Et même les adultes, les gens, quand ils viennent à la maison, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'est un chat vraiment très, très sociable.
Et
vraiment.
Vous élevez aussi des Devon Rex, là encore, une race pas tellement répandue.
Alors, pas très répandu non plus, qui se rapproche quand même un petit peu du sphinx au niveau faciès, on va dire. C'est un petit peu le même standard, enfin pas le même standard, mais c'est un peu le même look. Par contre, c'est un chat qui a une petite fourrure qui ressemble à de l'astrakhan. C'est une fourrure ondulée, un poil qui ne tombe pas. Ça fait pas très longtemps que j'ai des Devon. Ça m'intéressait depuis un petit moment et j'ai franchi le pas. C'est un chat qui est un petit peu différent du sphinx, un petit peu moins sociable. Mais qui s'en rapproche quand même énormément. Voilà.
Dites-moi, votre vie au quotidien, j'imagine qu'elle est rythmée par tous ces animaux, toutes les naissances. On ne fait que ça quand on est éleveur, c'est un sacerdoce presque.
On est un peu prisonnier de sa passion, mais non, c'est vrai, on est prisonnier de sa passion, mais en même temps... les vacances, c'est quand même pas tous les jours. Donc, moi, tous les jours, j'ai du plaisir à m'occuper d'eux. J'ai aussi beaucoup de perroquets. Hein. J'ai une collection aussi de perroquets. Tous les jours, c'est que du plaisir, même. Mais par contre, il n'y a pas de dimanche. C'est tous les matins. Effectivement, ça nous oblige à avoir un emploi du temps bien rythmé, on va dire. Et sans dimanche, sans jour férié, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours.
Eh bien, merci beaucoup, Sophie Debricon. On ne va donc pas vous prendre plus de temps, puisque j'imagine que vous allez vaquer à vos occupations auprès de tous ces animaux. Comment on vous trouve sur les réseaux sociaux pour les gens qui seraient intéressés, qui voudraient voir à quoi ressemblent vos lévriers ou vos chats? Alors, un peu particuliers
Notamment Facebook. J'ai ma page personnelle, à Sophie Debricon, élevage d'Hélène Dill. Donc, on me trouve en page perso voilà. Publique, il n'y a pas de problème.
Hélène Dill, c'est en fait l'affixe de votre élevage.
Voilà. C'est le nom de mon élevage, que ce soit chien ou chat.
Et vous êtes dans quelle région, Sophie? Redites-nous.
À côté d'Orléans.
À côté d'Orléans. Bon, voilà, et bien écoutez, 45. Un grand merci d'être venu sur l'antenne de Sud Radio pour nous faire vivre votre quotidien d'éleveuse et partager avec nous votre passion pour les animaux. Merci Sophie, très bon week-end à vous.
Merci beaucoup, au revoir.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, très chers auditeurs de Sud Radio. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vos Animaux.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.